Parce que c'est vraiment la fondation de tout ce que nous sommes en train de voir depuis 3 semaines sur le fait de devenir un vrai disciple du Seigneur. Jésus lui-même dit ces paroles, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Vous remarquez ici qu'il n'a pas dit de faire de toutes les nations des croyants. Il a dit des disciples et on est en train de marquer la différence entre les deux. Et après, il va dire les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je fais une parenthèse ici que je n'ai pas faite lors des précédents messages. Un disciple de Jésus est baptisé d'eau. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau et que vous voulez devenir disciple, ça va être une des prochaines étapes, n'est-ce pas? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà la partie ordre de mission, la partie mandat que Jésus a donné à ses premiers disciples. Et ensuite, il va terminer avec une promesse. Vous voyez que Jésus donne un ordre, mais ensuite, il accompagne cet ordre d'une promesse. Il est bon, non? Et il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La question est la suivante. Si Jésus nous demande de devenir son disciple, ou si nous sommes censés faire des disciples, à quoi ressemble un disciple de Jésus? Et ça m'a pris à peu près presque 2 ans pour pouvoir définir clairement à quoi ressemble un disciple de Jésus. Et pendant ces 3 messages, je suis en train de synthétiser ces choses pour que vraiment ça soit clair. Comment est-ce que je vais savoir si je suis vraiment arrivé au statut de disciple ou pas? Eh bien, ce sont les points que je suis en train de développer avec vous. Dans le premier message, nous avions pris 4 exemples du livre des Actes et nous avions vu 4 disciples dans ce livre qui nous aident à voir à quoi ressemble un disciple de Jésus. Je vais aller vite sur ces points, c'est sur le podcast, vous allez sous victoire.cc et tu croyant disciple numéro 1, vous trouvez ça. La première chose que nous avions dite, un disciple de Jésus annonce la bonne nouvelle et nous avions pris l'exemple d'Étienne qui avait annoncé Jésus à son propre peuple. Deuxièmement, nous avions dit qu'un disciple de Jésus, il forme d'autres disciples. C'est-à-dire qu'il est engagé à gagner d'autres pour le Seigneur et à leur transmettre ce qu'il sait à propos de Jésus. Et nous avions pris Timothée comme exemple parce que Paul avait dit à Timothée « Et ce que tu as entendu en présence de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Donc on voit que là qu'il y a plusieurs générations de transmission, c'est comme ça que l'Église avance et c'est comme ça que l'Église prospère dans la connaissance de Dieu. Troisièmement, nous avions dit qu'un disciple de Jésus, il impose les mains. Et nous avions pris l'exemple en acte 9 d'un certain Ananias. Et Ananias a imposé les mains sur Saul qui est devenu un Paul. Donc on voit un disciple qui a imposé les mains sur un futur apôtre. Waouh ! Et nous avions dit qu'il avait imposé les mains pour 2 choses. Pour la guérison divine parce que Paul a recouvert la vue. Et pour le baptême du Saint-Esprit, parce que Paul a commencé à parler en d'autres langues à partir de Actes chapitre 9. Mais c'est un disciple qui a imposé les mains sur lui. La Bible ne dit pas que c'était un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un enseignant, non, un prophète. Non, c'était un disciple qui l'a fait. Donc quand on arrive vraiment au statut de disciple, on commence aussi à imposer les mains. Et quatrièmement, nous avions dit qu'un disciple de Jésus, il apporte sa pierre à l'édifice. Il n'est pas juste quelqu'un qui est spectateur dans son église locale, mais il contribue, il apporte sa pierre et pour construire l'édifice qui est bien sûr l'édifice de l'église parce que Jésus a promis et a pris la responsabilité ultime de bâtir son église. Mais comment bâtir quand vous n'avez pas de pierre? Et nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes devenus les pierres que Jésus a besoin pour bâtir son église. Ça va? Jusque-là, ça c'est le résumé du premier message et l'exemple que nous avions pris, c'était Philippe dans Actes 6. Deuxième message, nous avions quitté le livre des Actes pour aller dans l'évangile de Jean. Et nous avons vu que dans l'évangile de Jean, Jésus donne 3 critères très précis pour ceux qui veulent vraiment être son disciple. Premièrement, il a dit dans l'évangile de Jean qu'un disciple de Jésus, il demeure dans la parole de Dieu. Il demeure ou il habite dans la parole de Dieu. Il n'est pas juste en train de la chatouiller de temps en temps, il habite dedans. Il la lit, il l'étudie pour lui-même, il se réunit avec d'autres disciples pour l'étudier, etc. Il la médite, il vient écouter la parole et on va voir qu'il la met aussi en pratique. Deuxième chose qu'on avait vue dans l'évangile de Jean concernant un disciple, toutes ces choses, je vais vous donner une petite feuille et vous allez pouvoir faire votre petite évaluation personnelle. Ici, n'oubliez pas ceci à la fin de la célébration. C'est qu'un disciple de Jésus, il est en communion fraternelle avec d'autres disciples. Et j'avais amené la dimension pas en communion virtuelle, il n'est pas seulement sur Facebook, et sur Instagram, avec d'autres disciples, il est en communion fraternelle. Ça veut dire qu'il voit d'autres vrais gens dans la vie réelle avec qui il va échanger, partager, prier, étudier la parole. Il est en communion, il voit de vrais gens, un disciple de Jésus. Il n'est pas dans sa petite bulle, il n'est pas un no life, comme les jeunes ils disent aujourd'hui. Il est un vrai life, il est un yes à la life. Il dit oui à la vie parce que le prince de la vie habite en lui. Et il voit d'autres personnes qui ont envie aussi de cheminer dans cette dimension de disciple. Et la troisième chose que Jésus a dite dans l'évangile de Jean pour devenir son disciple, c'est qu'un disciple de Jésus, il porte beaucoup. Vous voyez que Jésus, il n'a pas dit, si vous portez à peine un petit peu de fruits, à ce moment-là, je vais vous appeler mon disciple. Il a monté la barre et il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père, il sera glorifié, premièrement, et vous, vous serez vraiment reconnu comme un de mes disciples. Waouh ! Nous avons vu sept choses. Vous pensez bien que dans ma pensée synthétique et systématique suisse, on va aller jusqu'à 10. Et ces 10 critères, je les ai mis sur une feuille. Et après, j'aimerais que chacun dans l'Assemblée évalue où il en est par rapport à un croyant et où il en est par rapport à un disciple. Sur les 10 choses que j'ai évoquées, vous avez une règle de 1 à 10. 1, ça veut dire que vous êtes vraiment croyant. 10, ça veut dire que vous êtes vraiment disciple. Par exemple, un disciple demeure dans la parole. Où j'en suis ? Est-ce que je suis à 2 ou je suis à 7 ? Et là, vous regardez. Et à la fin, votre moyenne des 10 points, si entre 1 et 5, c'est votre moyenne, alors vous êtes plus un croyant qu'un disciple. Et si vous êtes entre 5 et 10 sur ces 10 points, alors vous êtes plus un disciple qu'un croyant. Et après, ma décision pour 2016. Qu'est-ce que je vais faire en 2016 pour devenir davantage comme Christ ? Qu'est-ce que je vais faire en 2016 pour que Christ soit pleinement établi en moi ? C'est ce que Paul dit en Galates 4, 19. Être disciple, c'est que Christ est pleinement établi en moi. Pas juste, il n'est pas juste à l'état de semence, il est en nous, comme on l'a chanté très justement, il est en nous. Christ est en nous. L'espérance de la gloire, il est en nous. Mais est-ce qu'il est pleinement établi en nous ? Ça, c'est quand on devient vraiment un de ses disciples. Ça va jusque-là ? Si je devais résumer en trois phrases, la différence entre un croyant et un disciple, ça serait ceci. Premièrement, le croyant, il écoute la parole de Dieu. Le croyant, il aime la parole de Dieu. Le croyant, il aime l'écouter. Le croyant, il vient à l'église et il écoute la parole. On ne peut pas lui enlever ça. Il aime l'écouter. Mais là où il y a la différence entre le croyant et le disciple, c'est que le disciple, non seulement il va l'écouter la parole, mais il va la mettre en pratique. Et là, on voit Jésus, il nous dit, mais quand il est questionné, le Seigneur, sur qui sont vraiment ceux que tu considères comme ta famille ? Et Jésus va dire ceci. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ceux que je considère vraiment comme ma mère, ceux que je considère vraiment comme mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, premièrement. Vous êtes d'accord ? Mais le croyant, il s'arrête là. Il l'écoute. Et dans chaque assemblée, vous avez les deux. Vous avez des croyants, vous avez des disciples. Mais là où le disciple va plus loin, c'est que non seulement il écoute la parole de Dieu, mais il va la mettre en application ou en pratique. Ça, c'est la première grande distinction, si je devais résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. La seconde, ou la deuxième, parce que seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. La deuxième, le croyant, ça, il faut lui laisser aussi, il reconnaît Jésus comme son sauveur. Il croit que Jésus est mort pour lui. Il croit que le sang de l'agneau a coulé pour ses péchés. Il croit à la vie éternelle. Il croit ces choses. Il le croit. Peut-être vraiment, vraiment fermement convaincu qu'il est de ça. Mais là où il y a vraiment une différence entre le croyant et le disciple, c'est que le croyant reconnaît Jésus comme son sauveur, mais le disciple, il reconnaît Jésus comme son sauveur, et attention, et son Seigneur. Quelle est la différence ? Ben, Jésus comme sauveur, c'est tout ce qu'il a fait pour moi. Le pardon de mes péchés, le fait que je suis racheté de la malédiction, le fait que j'ai hérité la vie éternelle, le fait que les promesses de Dieu m'appartiennent en Christ, elles sont oui et amen. Ça, c'est tout ce que Jésus a fait pour moi. Mais quand Jésus devient mon Seigneur, vous savez la différence ? Qu'est-ce que moi, maintenant, je suis prêt à faire pour lui ? Et ça, c'est la différence. Et c'est là où on perd beaucoup de disciples. Parce que certains, ils sont prêts à accepter tout ce que Christ a fait pour eux. Mais dès qu'on leur demande, mais qu'est-ce que maintenant, toi, tu vas faire pour vraiment suivre le Seigneur ? Et vraiment lui apporter un retour sur le plus grand investissement de tous les temps ? Quel est le retour sur investissement que tu vas offrir à Dieu ? Ça, c'est quand tu établis la seigneurie de Jésus dans ta vie chrétienne. Et seigneur, aujourd'hui, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Mais à l'époque féodale, il y avait un seigneur, un suzerain et il y avait un vassal. Mais aujourd'hui, Seigneur, ça ne nous parle pas parce qu'on n'a plus des seigneurs qui règnent sur des terres. Mais le mot contemporain de Seigneur, c'est maître. Ça veut dire que quand Jésus est mon Seigneur, il est maître dans ma vie financière, il est maître dans ma vie professionnelle, il est maître dans ma vie relationnelle. Dans tous les domaines de ma vie, j'établis la seigneurie de Jésus et je le laisse régner dans chaque petit compartiment de mon cœur, y compris les relations amoureuses, y compris la vie financière, etc., etc. Mais ça, ça demande un vrai travail. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Si Jésus a pris 3 ans, voire 3 ans et demi pour former ses disciples, on peut penser que ça va nous prendre plus de temps que ça. Parce que lui, c'était le meilleur formateur de disciples. Moi, ça fait, je suis né de nouveau depuis 2003. On est en 2015, ça fait 12 ans que je suis à Christ. Mais je ne suis pas arrivé à disciple dès le moment où je suis né de nouveau. Naître de nouveau, c'est la première étape. Et après, on s'engage à le suivre. Et dans ma propre vie, les 2 premières années de ma conversion, de 2003 à 2005, je vous promets, Jésus était mon sauveur. Je savais que j'étais sauvé. J'avais le témoignage à l'intérieur que vraiment, j'avais la vie éternelle, etc. J'étais convaincu de cela. Mais j'avais toujours un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Et je me suis dit, Philippe, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu ne peux pas rester dans cette situation-là? Soit tu as les 2 pieds dans le monde et tu retournes en arrière. Soit tu mets les 2 pieds dans le royaume de Dieu et t'avances avec le Seigneur. Mais cette situation bancale où tu ne peux jamais apprécier les bénéfices du royaume de Dieu parce qu'il y a ta conscience qui te reprend maintenant, mais tu ne peux pas retourner totalement dans le monde parce que tu sais que tu as vécu une expérience avec le Seigneur. Et c'est là que je suis parti, j'ai quitté mon environnement, un peu comme Jésus qui a déraciné les premiers disciples de leur environnement professionnel, de leur environnement relationnel, familial, etc., pour pouvoir les former en tant que disciples. Et pour moi, c'était de partir de la Suisse et d'aller pendant 6 mois en Afrique du Sud. Et lorsque j'ai commencé mon école de formation de disciples, j'ai dit ceci. On devait expliquer aux autres qui étaient là pour faire l'école pourquoi on était là. Et moi, j'ai dit ça. J'ai dit, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur. Mais vous savez quoi? Ça, c'était facile. Parce qu'il a tout fait pour moi. Mais je n'arrive pas à établir Jésus comme mon Seigneur. Et je suis ici parce que j'ai besoin d'aide. Et là, forcément, les gens se sont mis autour de moi, ils ont prié pour moi. Et ces 6 mois-là étaient peut-être les 6 mois les plus difficiles de ma vie chrétienne, parce que c'est là où j'ai vraiment changé et j'ai vraiment transitionné d'un croyant à un disciple de Jésus. Et Jésus dit ceci, est-ce que vraiment on peut l'appeler Seigneur si on ne fait pas ce qu'il dit? Il dit ceci, regardez, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ou pourquoi m'appelez-vous Maître, Maître? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, quand vraiment on est disciple, Jésus, il est notre sauveur et il est notre Seigneur. Et vraiment, ce qu'il dit, on le met en pratique et on avance dans notre vie spirituelle. On mûrit spirituellement, on croit spirituellement et on laisse Christ être établi pleinement en nous. Ça, c'est disciple. 3e phrase, et c'est vraiment là ce que je vais développer ce matin. Le croyant, il croit. C'est ce que ça veut dire, un croyant. Il croit en Jésus. Mais dès que ça devient un petit peu trop difficile de suivre Jésus, ou dès qu'il y a des persécutions qui se lèvent parce qu'il suit Jésus, et la Bible nous enseigne dans la parabole du semeur qu'il y a de la persécution à cause de la parole, à ce moment-là, il laisse tomber et il dit « Non, je ne vais pas plus loin ». Parce qu'en raison de ma foi, je commence à être persécuté, je commence à avoir des défis dans ma vie personnelle, alors je rebrousse chemin et je ne suis pas prêt à payer le prix pour vraiment suivre Jésus. Alors que les disciples, non seulement ils croient, mais ils le suivent, et ils le suivent même, et écoutez bien, s'il y a un prix à payer pour le suivre. Ça, c'est la grande, grande, grande démarcation que je vais développer aujourd'hui entre un croyant en Jésus et un disciple de Jésus. Il y a une différence entre un croyant en Jésus et un disciple de Jésus. Et Jésus dira en Luc 9, verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, premièrement, qu'il se charge chaque jour de sa croix, deuxièmement, et troisièmement, qu'il me suive. » Et je vais vraiment parler aujourd'hui de suivre Jésus, même si ça peut nous coûter quelque chose. Et j'aimerais vous présenter quelqu'un qui était disciple de Jésus sous le Troisième Reich de Adolf Hitler. Cet homme, il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. On le considère aujourd'hui comme un très grand pasteur de l'époque, un très grand théologien. Il a même été reconnu comme prophète. Mais en fait, c'était aussi un espion à l'époque de l'Allemagne nazie. Et vous savez quoi? Cet homme, il n'a pas vécu très longtemps, parce que de 1906 à 1945, il y a à peu près 39, c'est ça? 39 ans. Mais cet homme, avant d'être pasteur théologien et tous ces titres-là, vous savez quoi? Il était disciple de Jésus. Et vous savez qu'un disciple de Jésus, cet homme a été perçu comme une menace pour Adolf Hitler, pour la Gestapo et pour le Troisième Reich. Un disciple de Jésus, mes amis, il fait peur au royaume des ténèbres. Et cet homme, il a tellement fait peur, il a tellement été perçu comme une menace par Adolf Hitler lui-même, que le Führer va ordonner son arrestation et son exécution. Cet homme va être pendu en raison de sa foi en Jésus, parce qu'il était perçu comme une menace par tout le Troisième Reich. Et on s'est dit, ce disciple de Jésus, si on le laisse continuer, il va commencer à effondrer l'empire qu'on a commencé. On ne peut pas le laisser continuer. On va l'exécuter. Et il est mort, pendu, à 39 ans. Donc ne me dites pas, ou n'allez pas lui dire, quand vous le voyez au ciel, que sa foi en Jésus ne lui a rien coûté. N'allez pas dire à un musulman que sa foi en Jésus ne lui coûte rien. N'allez pas dire à un chrétien chinois que sa foi en Jésus ne lui coûte rien. Peut-être qu'en Europe, ça ne nous coûte rien, mais c'est parce qu'on n'est pas encore devenu Jésus. Mais dans les autres régions du monde, devenir disciple de Jésus, ça coûte, et ça a coûté la vie à cet homme. Et quand les nazis sont arrivés, la Gestapo est arrivée, il a dit comme ça, il a dit, c'est la fin. Il sentait qu'il allait se faire tuer pour sa foi, parce qu'il défiait le Troisième Reich. Un disciple qui défie un empire. Vous voyez que ce n'était pas un petit croyant, hein? C'était un disciple de Jésus. Et il a dit, c'est la fin, mais pour moi, c'est le début de la vie. Il savait où il allait. Il savait qu'il allait payer sa vie, mais il savait où il allait. Comme Paul qui disait, mourir en réalité, c'est un gain pour moi. Je sais à qui j'appartiens. Je sais à qui j'ai donné ma vie. Et vous savez quoi? Même si je dois laisser mon existence, je sais où je vais. Et je vais avec le Seigneur. Et cet homme, il a écrit un livre de son vivant qui s'appelle en anglais « The Cost of Discipleship » ou « Le coût du discipulat ». Le coût de devenir vraiment disciple de Jésus. Le prix à payer pour vraiment marcher à la suite de Jésus. Et il a donné ces deux citations que j'aimerais qu'on médite ce matin. C'est les suivantes. Le salut, il est gratuit. Vrai ou pas vrai? Il est gratuit. On le reçoit gratuitement. C'est une grâce. C'est un cadeau de Dieu. On le reçoit gratuitement. Mais il a tout coûté à Dieu. Il a tout coûté à Jésus, ce salut. Oui ou non? Il est gratuit pour ceux qui reçoivent le salut, mais il a coûté pour celui qui le donne. Et après, il dit ceci, mais le discipulat, c'est-à-dire marcher vraiment à la suite de Jésus, devenir vraiment comme Jésus, être vraiment reconnu comme son disciple, il dit, ça va exiger votre existence tout entière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes engagé avec le Seigneur pour la vie entière. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Quand vous avez fait vos premiers pas avec le Seigneur. Et il dit aussi ceci, le christianisme sans discipulat ou le christianisme sans vraiment faire des disciples de Jésus, regardez ce qu'il en dit, est toujours le christianisme sans Christ. Et ça, ça nous remet en question quand même. Et on peut dire qu'il sait de quoi il parle. Étant donné la situation qu'il a vécue, on peut vraiment se rendre compte de ses paroles. Pour ça, pour l'équation qu'on essaye de résoudre pendant ces trois messages, c'est la suivante. Le salut plus le discipulat, devenir disciple vraiment, égale l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste le salut. Si je vous dis que l'évangile, c'est juste le salut, je ne suis pas en train de vous aider. Et je ne suis pas en train de vous dire la vérité. L'évangile, c'est le salut en Jésus-Christ. Oui. Et amen. Mais une fois qu'on est sauvé, maintenant on marche à la suite de Jésus et on devient son disciple et on se laisse transformer par l'évangile, on se laisse transformer par la parole de Dieu et on arrive au statut d'une personne transformée par la parole et par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'équation totale de l'évangile. Mais le problème aujourd'hui, je vous l'ai déjà évoqué, entre l'Église d'aujourd'hui et l'Église du livre des Actes, c'est qu'à l'époque, ils étaient vraiment disciples Et l'évangile que Jésus a prêché nous emmenait vraiment au statut de disciple. Je vous avais montré ce schéma, se repentir. L'évangile de Jésus commence par la repentance, par croire, par suivre et par poursuivre sa mission. Et vous voyez qu'il y avait vraiment une continuité dans ce que Jésus prêchait. C'est-à-dire que dès que les gens étaient sauvés, dès que les gens acceptaient le salut, boum, maintenant tu deviens disciple. Maintenant tu suis. Il n'y a pas de rupture. Il y a un continuum. Il y a quelque chose qui continue comme un boum. Vous voyez ces machines qui tassent le bitume. Et il y avait vraiment une dynamique, un momentum dans l'église des actes. Pourquoi ? Parce que les croyants étaient sauvés et boum, ils devenaient disciples. De suite, ils prenaient la décision, je deviens disciple. Mais aujourd'hui, on accepte le salut, on accepte les promesses de Dieu et c'est là que ça commence. Amen. C'est là que ça commence. Mais le problème aujourd'hui, c'est pour ça que l'évangile qui est prêché aujourd'hui, là quand je dis dans l'église, je parle de l'église universelle, la grande église, c'est qu'il y a une rupture. C'est-à-dire que les gens y croient, mais ils suivent mais tant que ça leur fait plaisir. Ou ils suivent tant que c'est confortable. Ou ils suivent tant que ça ne me coûte pas trop. À ce moment-là, je suis. Mais dès que Jésus m'en demande trop, à ce moment-là, j'abandonne la partie. Dès que je reçois des persécutions à cause de la parole, j'abandonne la partie et on n'arrive pas à arriver au statut de disciple. Voilà la grande carence dans notre Église aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ mondiale. Pourquoi est-ce qu'il y a cette rupture? Et là, il y a vraiment un texte qu'on va prendre. Je ne prêche pas d'habitude sur un texte que je détaille, mais vraiment, j'ai été amené dans cette dimension-là. La raison pour laquelle il y a une rupture aujourd'hui, entre le croyant et le disciple, c'est que Jésus n'a jamais caché qu'il y a un prix à payer pour le suivre. Il n'a jamais caché cette réalité. Mais la réalité est qu'il y a peu de croyants qui sont vraiment prêts à devenir disciples et qui sont vraiment prêts à laisser quelque chose ou que ça leur coûte quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts quand on regarde ce texte? Je vous l'annonce d'avance. Ce n'est pas un texte facile. Ce n'est pas un texte facile que Jésus a annoncé. Ce n'est pas un texte facile à recevoir. Et rassurez-vous, ce n'est pas un texte facile à donner de ma part. Mais si on ne donne pas tout l'évangile, on n'arrive pas à la transformation, vous comprenez ceci? Si on tronque, si j'ajoute des choses à la parole ou j'enlève des choses à la parole, on fabrique son propre évangile et on n'arrive pas au statut de transformation et de disciple de Jésus. Donc, les parties qui nous dérangent dans la parole de Dieu, au lieu de les éviter, au lieu de fermer les yeux, est-ce qu'on peut les méditer? Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut essayer de voir qu'est-ce que ça implique vraiment dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on regarde ça avec cette approche, avec cette dynamique? Et on va aller dans l'évangile de Luc, au verset 14. Je vais faire la lecture du texte de façon continue. Chapitre 14. Et après, je vais commenter ce texte et ça va être l'essence de ce que je vais ajouter aujourd'hui. Les trois points qui me restent pour arriver aux 10 points qui, à mon sens, définissent le mieux un disciple de Jésus. Vous êtes là en Luc 14? Il y a 10 versets qu'on va lire, de 25 à 35. D'abord, je fais la lecture, ensuite on détaille le texte. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être quoi ? Mon disciple. » Première fois que Jésus dit ou qu'il donne une condition pour qu'il nous empêche de devenir son disciple. Remarquez que dans l'évangile de Jean, il a donné les critères pour être son disciple. Là, il donne ce qui nous empêche d'être son disciple et il va en donner trois. Je continue le texte. Verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être quoi ? Deuxième fois. 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour et ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Verset 31. « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être quoi ? Mon disciple. » Troisième fois. Verset 34, le sel est une bonne chose, mais le sel perd sa saveur. Avec quoi l'assaisonnera-t-on? Verset 35, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Attention à la dernière phrase qu'il dit. Il dit, n'essayez pas d'évincer ce texte. Il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc on ne va pas essayer de mettre ce texte à la poubelle. On va vraiment le considérer et je vais le commenter et le détailler pour savoir quelles sont vraiment les conditions requises pour devenir disciple de Jésus. Ça va? Dans ce texte, Jésus utilise deux illustrations pour nous dire que le suivre réellement, ça va nous coûter quelque chose. Le contexte ici, c'est qu'il y a une grande foule qui le suit. Cette grande foule, elle a vu quoi? Elle a vu les miracles, elle a vu les délivrances, elle a vu la multiplication des pains, elle a vu la multiplication. En gros, cette foule a vu tout ce que Jésus pouvait faire pour elle. Mais maintenant, Jésus s'arrête. Et au lieu de cajoler la foule, au lieu de la caresser dans le sens du poil, au lieu de leur dire « c'est bien, vous avez cru en ce que j'ai fait », il va aller à contre-courant et il va redresser les poils de cette foule et il va donner un message, au lieu d'augmenter la foule qui est là, il va donner un message qui va en fait affiner la foule. Waouh! Ça, c'est le message ou le contexte de Luc 14. Les deux illustrations qu'il utilise pour que dire, vraiment, pour passer de croyant à disciple, mes amis, je ne sais pas si vous avez vraiment compris qu'il va y avoir un prix à payer. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris, foule qui me suit, qui a vraiment un coût et qu'il faut calculer ce coût avant vraiment de devenir mon disciple. Et il donne d'abord l'exemple d'une tour. Et cette tour, elle apparaît au verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et le voir s'il a de quoi la terminer ?» Avec ma femme, nous voulions acheter un logement. Donc nous voulions passer de locataire à propriétaire. Nous avons calculé la dépense de notre tour. Ou nous avons calculé la dépense de l'achat en question. Et nous avons réalisé qu'avec nos moyens financiers actuels, il ne serait pas bon de faire cet achat maintenant. Alors nous nous sommes rétractés et nous sommes restés locataires pour l'instant. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons calculé la dépense que ça allait nous coûter. Nous allons calculer notre tour ou la maison ou l'appartement que nous voulions acheter. On s'est dit, non, ça ne va pas le faire. On va se mettre la corde au cou, ça va être dangereux. Du coup, on se rétracte. Et c'est exactement cet exemple que Jésus donne. Il dit, si vraiment vous voulez me suivre, là vous me suivez juste parce que j'ai donné des bonbons à droite à gauche. Mais si vraiment vous voulez me suivre, si vraiment vous voulez croire et me suivre, prenez conscience que comme cette tour, il y a un coût à calculer. Et si vous le calculez et vous me suivez, à ce moment-là, vous allez vraiment être mon disciple. Mais Jésus dit, je vous conseille d'abord, avant de vraiment devenir mon disciple, calculez le coût. Rendez-vous compte qu'il y a, ça va représenter quelque chose dans votre vie. Le deuxième exemple que Jésus nous donne pour nous expliquer que la vie chrétienne, ce n'est pas juste de la guimauve, il parle de l'exemple d'un roi. Et il va dire, lorsqu'un roi qui a 10 000 hommes, il sait qu'il part en guerre contre un autre roi qui a 20 000 hommes, donc deux fois plus. Vous ne pensez pas qu'il va penser à deux reprises là? Est-ce que j'y vais vraiment? Ou alors je me rétracte? Et Jésus dit, ne serait-il pas préférable pour ce roi qui a seulement la moitié de l'effectif ou du contingent pour aller contre cette guerre, ne serait-il pas préférable pour lui de signer en fait un traité de paix? Parce que s'il va contre ses, c'était 20 000 je crois, contre ses 20 000 hommes et que lui n'en a que 10 000, peut-être qu'au dernier moment, il va se rétracter, il va dire, je signe un traité de paix et comme ça, on reste tranquille. Mais là, ça risque vraiment de coûter la vie à beaucoup de mes hommes. Et ça, c'est la deuxième illustration que Jésus nous donne. Avez-vous vraiment compris que quand vous allez me suivre avec tout votre cœur, toute votre âme, toute votre énergie, toute votre force, il va y avoir un coût? Est-ce que vous l'avez calculé? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un prix à payer? Mais vous savez quoi? Jésus n'a jamais caché qu'il y a un prix à payer pour le suivre. Deuxièmement, il n'a jamais caché qu'il y a un prix à gagner pour ceux qui le suivent. Et écoutez le message jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous relever et je vais vous montrer que ceux qui laissent quelque chose pour suivre Jésus, la récompense qu'il promet à ceux qui ont quitté quelque chose pour lui et pour la bonne nouvelle sera toujours plus grande que le prix qui a été payé. Le prix à gagner pour ceux qui laissent quelque chose pour la bonne nouvelle et pour le royaume de Dieu sera toujours plus grand que le prix qui a été payé pour suivre le Seigneur. Ça, c'est la promesse que Jésus lui-même nous fait. Quels sont les trois obstacles qui empêchent vraiment un croyant de devenir un vrai disciple de Jésus. Le premier obstacle, on le trouve en Luc 14, c'est notre texte, et nous allons aller au verset 26, et Jésus va nous expliquer que le premier obstacle qui empêche vraiment un croyant de devenir disciple, ce sont les relations. Mais regardez que Jésus ne va pas dire « Oh, les relations qui sont lointaines » ou « Les relations que tu ne considères pas vraiment ». Il va dire « Les relations que tu considères le plus, les relations qui sont le plus chères à ton cœur, est-ce que tu es prêt, voilà la différence, à me préférer à ces personnes-là ou pas ?» Regardez, il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, oula, attends là, tu touches à mon père, attention, à sa mère, ou, il évoque maman ici, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie. » Vous voyez que Jésus n'évoque que des relations directes familiales. Père, mère, frère de sang, pas forcément frère en Christ là, frère de sang et enfant. Et il dit, si vous me préférez à ces personnes-là, en réalité, vous ne pouvez pas être mon disciple. Je vous donne un scénario. Lorsque vraiment vous allez être sérieux avec le Seigneur, vous savez, quand vous êtes croyant, les gens vous disent, oh, bah, tu crois, mais on respecte tes croyances. Mais quand tu passes de croyant à croyant pratiquant, les gens vont dire, oh attention, tu pratiques maintenant. Et quand tu passes de croyant pratiquant à disciple, là ça va commencer à grincer des dents parce que tu vas commencer à chambouler tes priorités et tu vas commencer à perturber les gens qui sont autour de toi. Et Jésus nous dit qu'il va être, dans un autre texte de Luc, une cause de division au sein de notre famille. Il y a ceux qui vont dire oui à Jésus. Moi j'ai dit oui à Jésus et peut-être... Ce n'est pas mon cas, mais peut-être mon père ne veut pas dire oui à Jésus. Et quand Jésus est une cause de division entre un fils et un père, entre un frère et une sœur, entre un parent et un fils, si Jésus est une cause de division dans ce cas-là, et pour, étant donné que ça crée de la division, du désaccord, et si toi tu dis, ok, par amour pour ma famille, je laisse tomber Jésus et je veux le calme dans ma famille, il dit, tu ne peux pas être mon disciple. C'est dur, hein? C'est pas facile, hein? En revanche, il dit, si je deviens une cause de division, de désaccord dans ta famille, et que quelqu'un te dit, plus jamais tu viens dans ma maison, je veux pas de quelqu'un qui suit Jésus dans cette maison, je ferme ma maison pour toujours, et tu reviens pas, et toi tu dis, d'accord, c'est ta décision, je préfère Jésus à toi à ce moment-là, je quitte ma famille pour suivre Jésus. Jésus dit, tu es vraiment mon disciple. C'est pas facile, hein? Je vous ai dit que ce n'est pas un texte facile. Paul, qui avait un pédigré familial, qui avait un pédigré religieux extraordinaire, il a dit, je renonce à toutes ces relations-là. Pour une chose, pour gagner Christ. Et toutes ces relations-là, je vais même les considérer comme de la boue, c'est ses propres mots, pour gagner Christ. Parce que pour moi, il est préférable de gagner Christ que ces relations prestigieuses, familial, mon héritage, qu'il soit familial ou spirituel. Il a dit qu'il a renoncé à tout. Alors peut-être, vous êtes le seul qui est à Christ dans votre famille. Mais vous savez quoi? Peut-être que vous êtes en train de perdre la relation avec votre père. Peut-être que vous êtes en train de perdre la relation avec votre mère, avec votre frère, avec votre sœur, avec vos enfants, parce qu'en fait, votre amour pour Jésus est plus fort que ces relations familiales. Et Jésus dit, celui qui fait ça, en aimant toujours sa famille, en croyant toujours pour son salut, on est d'accord. Mais celui vraiment qui me préfère à ses relations les plus chères dans ma vie, si elles m'empêchent de suivre Jésus et que je suis Jésus, je suis vraiment son disciple. Et moi, dans ma vie, je n'ai pas forcément perdu des relations familiales, mais mes relations amicales ont été très chamboulées. Et mes relations amoureuses, avant de connaître ma femme, vous savez quoi? Mes deux dernières relations, elles ont terminé parce que j'ai préféré Jésus à la fille. Pourtant, j'étais épris, j'étais amoureux. Quand j'étais croyant, la première d'entre elles, elle me dit, mais ça ne te fait rien que moi, je ne sois pas croyant. J'ai dit, mais non, mais écoute, moi, je suis croyant, mais toi, tu n'es pas croyant, ce n'est pas grave pour l'instant. Mais quand vraiment je suis passé à disciple, c'est devenu un problème. C'est devenu quelque chose. Maintenant, je dois choisir. Soit c'est Jésus, soit c'est la fille. J'ai choisi Jésus. Et une autre fille qui s'intéressait à moi à la faculté, on allait au cinéma ensemble. Elle m'a emmené dans son Audi TT, alors que moi, je ne savais même pas conduire. J'étais là, oh, elle aimait les mêmes sports que moi. Moi, j'aime la planche à voile. Elle était kitesurf. Moi, j'étais là, waouh, ça, c'est le bon deal. Et vous savez quoi? La seule raison pour laquelle j'ai rien commencé avec cette fille, alors que ma chair poussait, mon esprit disait non, ma chair poussait, mon esprit non. Une des prières, et je vais parler de ça mardi soir, de consécration les plus importantes que j'ai jamais faites, c'est de dire, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, éloigne-la de moi. Vous savez quoi? Elle est partie en camp la semaine qui a suivi notre date au cinéma et on ne s'est plus jamais revus. Ou on s'est revus peut-être de loin ou de façon amicale comme ça. Et voilà, cette deuxième fille, j'ai préféré Jésus à elle. Ça, c'est le premier obstacle qui empêche un croyant de vraiment devenir disciple de Jésus. Mais vous savez quoi? Ça, c'était le prix à payer. Mais le prix à gagner, c'est une femme qui est plus belle que les deux précédentes. C'est une femme qui aime le Seigneur. C'est une femme qui est consacrée. C'est une femme qui veut marcher avec le Seigneur. C'est une femme qui veut servir le Seigneur. C'est une femme qui m'a donné ma fille. Quand je vous dis que le prix à gagner, il est toujours plus grand que le prix à payer. Mais ça, c'est l'Évangile, mes amis. Le deuxième obstacle qui nous empêche vraiment de devenir croyants, c'est ce qu'on appelle l'amour propre. Ou alors sa réputation. Ou alors on pourrait dire, oui, son amour propre, sa réputation. Ou on pourrait dire aussi sa propre volonté. Est-ce que je suis prêt, comme le dit Jésus ici, et quiconque, il y a des versions qui disent ne renonce pas à lui-même d'abord et porte sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. Suis-je prêt? Je pose les questions, à vous d'évaluer votre cœur. Je pose juste les questions ce matin. Suis-je prêt à renoncer à me faire un nom? C'est-à-dire que le nom Boulanger Philippe, je suis prêt à le mettre au pied de la croix et vraiment à consacrer ma vie pour élever le nom de Jésus. Est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça? Oui ou non? Est-ce que je suis prêt à crucifier ma chair, c'est-à-dire mon amour propre, ma réputation, voire ma propre volonté, parce que peut-être que ma propre volonté est en train de devenir un frein à la volonté de Dieu dans ma vie. Vous savez quoi? Jésus à la croix, parce qu'il y a un symbole de croix ici qui est un symbole de sacrifice, la Bible nous dit qu'il a été frappé et humilié. Il a perdu sa réputation à la croix. Mais si vraiment je deviens son disciple, je suis navré de vous dire, votre réputation, elle va en prendre un coup. Dites à quelqu'un que vous êtes chrétien, dites à quelqu'un que vous aimez Jésus, vous êtes tout d'un coup plus le gars le plus cool de la planète, vous êtes tout d'un coup plus la femme la plus fun du monde, vous devenez ringard. Votre réputation va être anéantie. Me dites pas que ce n'est pas la vérité. C'est vrai. C'est la vérité. Allez dans une fête et dites le nom de Jésus dans une fête. Vous pouvez dire Allah, Bouddha, Zarathustra, Confucius, pas de problème. On dit, mais c'est cool, tu es dans les religions orientales, ouais, parle-moi en plus. Après, tu dis, moi, c'est Jésus. Écoute, reprends ton coca, parce qu'ici, déjà, on ne boit pas de coca. Tu reprends ton coca et la porte de sortie, elle est là. La réputation, notre amour propre va en prendre un coup. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ça pour que le nom de Jésus soit élevé? Et on se souvient que Philippe l'évangéliste, il prêchait le Christ, il prêchait pas son propre nom, il prêchait le Christ. Mais je vais aller plus loin. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus lui-même a dû renoncer à sa propre volonté. À 3 reprises, il a prié, « Père, si tu pouvais éloigner, s'il te plaît, cette coupe, loin de moi. » La coupe représente aussi le sacrifice ici. Hein. Quand on prend la Sainte Seine, c'est une coupe de sacrifice. Si tu peux éloigner ce sacrifice qui arrive, si tu peux éloigner de moi cette croix, s'il te plaît, fais-le. Mais, cependant, je prie quand même que ça soit ta volonté et pas la mienne qui soit établie dans ma vie. Est-ce que je suis prêt à mettre ma propre volonté? Parce que ma propre volonté, peut-être que je l'ai construite avant de connaître le Seigneur. Et maintenant que je connais le Seigneur, peut-être que le Seigneur, il a une autre volonté pour ma vie. Ma propre volonté, c'était quoi? Ma propre volonté, c'était d'être journaliste pour Envoyé spécial le jeudi soir à France 2. C'était ma propre volonté. J'ai fait les études de journaliste, j'ai fait les stages, je partais avec ma caméra, je me suis dit, oh là là, je gagne rien. Je suis en train de faire un immense sacrifice, mais bon, je fais le stage, j'apprends, c'est bien. Allez, tiens, tes petits honoraires, ça paye à peine ton train. Mais bon, je continue et je me dis, allez, un jour, je serai envoyé spécial. Un jour, je serai envoyé spécial. Mais là, je dois aller voir le gars qui s'occupe de ses abeilles coincées dans les montagnes. Je préférerais parler de politique internationale et tout. Mais Philippe, croche, croche, tu vas y arriver. C'était mon but. Et le jour où je reçois mon diplôme, le jour où c'est bien écrit sur mon CV, bac plus 5, le jour où je me suis dit, maintenant c'est l'heure, avec mes stages et ma formation académique, vraiment de faire un tabac et d'aller taper à toutes les entreprises médiatiques. Attention, j'arrive, j'avais mon nom dans le journal en Suisse, je veux mon nom dans le journal ici. Vous savez quoi? Le CV, il m'a dit, range-le, tu n'en auras plus besoin. Quoi? Alors que mes amis étaient en train d'apprendre un métier, moi j'ai fait des études. Et quand vous avez fait des études, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et quand vous faites des études, vous alignez les petits boulots. Et quand vous faites les études, j'ai pesé des patates. Je suis allé sur les routes faire rouge-vert. J'ai fait de la conciergerie. J'ai fait maître nageur. J'ai fait les devoirs avec les enfants. Allez, 1 plus 1 égale 2. J'ai tout fait pour pouvoir payer mes études. Et là, le jour où le CV est complet, le jour où c'est l'heure d'aller frapper le... Pose ton CV. Vous savez quoi? Mon entrée dans le ministère a été la décision la plus difficile, probablement de toute mon existence. Renoncer à ma propre volonté parce que j'avais compris que la volonté de Dieu était le ministère et le servir à plein temps. Mais vous savez quoi? Je le dis encore une fois, le prix à gagner est toujours plus grand que le prix à payer. Oh, je vous rends pas, j'arrive pas à vous exprimer à quel point je suis épanoui dans ce que je fais aujourd'hui. Je pars à Paris en fin de semaine, je pars en Haïti fin janvier, je pars en Suisse au mois de mars, je travaille, je voyage dans le monde entier pour l'Évangile. Mais ça, trop de chrétiens vivent des vies chrétiennes misérables parce qu'ils n'ont jamais laissé primer la volonté de Dieu sur leur propre volonté. Et je vous assure, c'est là que j'ai compris, Philippe, tu voulais une profession, mais Dieu t'a donné une vocation. Et il y a une différence entre un métier, une profession et une vocation. Paul l'appelle la vocation céleste. Et je suis rentré dans le ministère et il y avait un prix à payer. J'ai fêté 5 ans en plein temps dans le ministère. Écoutez bien, ma première année dans le ministère, alors que je travaillais comme une personne normale, je faisais à peu près mes 40 heures par semaine, etc. Vous savez quoi? Pendant presque une année, vous savez ce que j'ai reçu? Regardez bien mes doigts. Zéro. Zéro. Pas 1 euro pendant une année pour pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu. Alors que j'avais déjà galéré avec plein de petits boulots pendant mes études, alors que c'était l'heure. Non, tu vas encore faire 2 années d'études bibliques. Et tu vas commencer à me servir et tu ne vas rien recevoir. Et on a vécu avec ce que gagnait ma femme à l'époque, quand on était à Cannes-la-Bocca. Mais le prix à gagner est toujours plus grand que le prix à payer. Et la troisième chose qui nous empêche de passer de croyant à disciple, Jésus dira que c'est les possessions. Est-il mauvais ou est-ce un péché d'avoir des possessions? Non. Dans les évangiles, il y a un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Il était disciple de Jésus et il était riche. Est-ce incompatible d'être disciple et riche? Non. Zachée, le petit homme qui est monté sur l'arbre, la Bible nous dit qu'il était riche. Et quand il a rencontré Jésus dans sa maison, l'évangile est rentré en lui aussi et il a commencé à donner ses biens. Est-il incompatible d'être disciple et riche? Non. En revanche, là où nous défie Jésus, il nous dit, si tes possessions t'empêche de vraiment suivre ma voie, à ce moment-là, tu ne peux pas être mon disciple. Et vous savez quoi? Plus on a des possessions, plus ça va être difficile de relâcher les possessions. Et il y a un homme d'affaires, il va voir son pasteur, il dit, « Pasteur, gloire à Dieu, je suis un homme prospère, mon affaire tourne. Mais tu sais quoi? Maintenant, quand je donne la dîme, c'est pas juste quelques petites miettes, hein, ça devient conséquent. » Et ça devient difficile à la donner, pasteur. Pourquoi? Parce que plus on a de biens, plus on a de possessions, plus notre cœur va s'attacher à ça, au lieu de s'attacher au Seigneur. Jésus n'a rien contre les possessions, tant que les possessions ne nous possèdent pas. Jésus n'a rien contre les richesses, tant qu'on ne se confie pas en les richesses. Et cet homme d'affaires voir son pasteur, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Ça devient difficile. Il va dire, pasteur, il dit, je vais prier pour toi. Ah, c'est gentil, pasteur, merci. Et tu sais ce que je vais prier? Il dit, ben non, je ne sais pas. Je vais prier que tu retournes et que tu aies à nouveau le salaire que tu avais quand tu as commencé à donner la dîme. Qu'est-ce que tu en dis? Ah ben non, 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 je ne suis pas d'accord avec cette prière et tout. Ok, je vais continuer à donner ma dîme avec plaisir. Mais les richesses agrippent notre cœur. Et plus on accumule, plus l'avarice peut essayer de prendre notre cœur et nous éloigner loin de la foi. Mais si nos possessions nous empêchent vraiment de suivre Jésus, à ce moment-là, je ne peux pas être son disciple. Et dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit que Moïse, il a préféré quitter les richesses d'Égypte. Mais imaginez Moïse quand il était en Égypte. Il avait probablement 3 dames qui le massaient. Il en avait probablement 2 autres qui lui massaient les pieds. Il était probablement allongé avec le raisin qui lui tombait dans la bouche. C'était la Dolce Vita pour Moïse en Égypte. Mais regardez ce que Hébreux nous dit au verset 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, petit 1, a refusé la filiation avec la fille de Pharaon. Il a laissé tomber cette relation-là, comme Jésus nous le dit, le premier critère pour passer de disciple. Deuxième chose, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez qu'il était prêt à crucifier sa chair, prêt à sacrifier sa propre volonté pour vraiment rentrer dans ce que Dieu lui préparait. Mais regardez au verset 26, il regarda l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande, plus grande, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour Moïse, quitter l'Égypte, quitter les richesses d'Égypte et aller dans sa vocation céleste, c'était une rémunération plus grande que les richesses matérielles et les possessions. Et c'est là que je vais avoir beaucoup de mal à me calmer. Parce que je suis en train d'évoquer avec vous, il y a un prix à payer pour un disciple de Jésus. Mais il y a un prix à gagner. Et vous savez quoi? Jésus a dit que le prix à gagner pour ceux qui ont payé le prix pour le suivre, il va recevoir non seulement une récompense sur la terre, mais il va aussi recevoir une récompense au ciel. Il y a une rémunération sur la terre, pendant que je suis encore sur la terre, et il y aura une rémunération au ciel. Quelle est la rémunération de Moïse? Moïse qui a quitté le palace, Moïse qui a quitté l'Égypte, Moïse qui a quitté les richesses. Dieu lui a donné la mer rouge qui s'est divisée en deux dans le nom de Jésus. Dieu lui a donné le buisson ardent, là où il a reçu la révélation. Dieu lui a donné les tables de la loi. Dieu lui a donné les plus grands miracles, peut-être de l'Ancien Testament. Mais parce qu'il a lâché quelque chose, mais la rémunération sur la terre était plus grande que ce qu'il a laissé. Jésus a payé le prix ultime à la croix, mais la rémunération ou le prix à gagner que Jésus lui a donné était plus grand, parce que quand il est ressuscité d'entre les morts sur la terre, il était dans son corps glorifié. Et pendant 40 jours, il était sur la terre avec la récompense d'avoir été ressuscité d'entre les morts par l'Esprit de Dieu. Et au ciel, il a reçu le nom qui est en dessus de tout nom. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite du Père. Et vous savez quoi? Il aura encore une récompense sur la terre, le Seigneur Jésus, quand il va établir son règne millénaire, le millénium de Christ, quand il revient poser ses pieds sur la montagne des Oliviers en Zacharie 14, verset 4. Ça va être encore une rémunération du prix que Jésus a payé. Il va régner pendant 1000 ans sur la terre et nous régnerons avec lui si vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Et Paul qui a décidé de renoncer à tout. Je renonce à mon héritage religieux, je renonce à mon héritage relationnel, je renonce au fait que je suis race d'Israël, que je suis né de Benjamin, etc. Et il donne tout son pédigré. Et Dieu lui a donné sur la terre le plus grand ministère apostolique de tous les temps. Il y a un prix à payer, mais le prix à gagner sera toujours plus grand. Et il y a une récompense sur la terre, et il y a une récompense dans les cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Allez dans Marc 10 et je termine. Marc 10. Je suis en train de vous prêcher l'évangile que Jésus a prêché. C'est quoi les paroles de Jésus qu'on a vues ce matin? Ha 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 ha. Ouh, je sens qu'il y en a certains qui ont des récompenses qui arrivent. Et je sais que le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec ceux qui ont quitté quelque chose pour l'Évangile et de m'accorder avec eux dans la prière pour que les récompenses commencent à arriver. Je ne sais pas ce que vous avez quitté pour le Seigneur. Je ne sais pas ce que ça vous a coûté. Mais allez dans Marc 10. Et on va d'abord aller au verset 21. Et là, il y avait ce jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, mais qui ne voulait pas les lâcher pour suivre le Seigneur. Et Jésus lui dit, Jésus, l'ayant regardé, regardez, c'est magnifique, il l'aima. Il aima cet jeune homme riche qui n'a pas voulu renoncer à ses biens. Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus dit, si tu lâches des possessions pour le royaume de Dieu, tu auras un trésor dans le ciel. Mais il aurait voulu lui donner un trésor sur la terre aussi. Mais vu qu'il n'a pas voulu relâcher aucune de ses possessions, la seule rémunération qu'il a eue, ou le seul prix à gagner qu'il a obtenu, c'est des larmes pour pleurer. Moïse a une rémunération sur la terre parce qu'il a laissé quelque chose. Jésus a une rémunération sur la terre parce qu'il a laissé quelque chose. Paul a une rémunération sur la terre parce qu'il a laissé quelque chose. Le jeune homme riche n'a eu aucune rémunération sur la terre parce qu'il n'a pas voulu payer le prix pour suivre le Seigneur. Et Jésus dit, Pierre voit cette scène. Et Pierre, il n'est pas content. Il dit, Seigneur, nous, on a tout quitté pour te suivre. Et là, tu es en train de dire que lui, il ne va pas pouvoir hériter la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a tout lâché. Tu es venu nous chercher, j'ai lâché mon filet, j'ai lâché mon business, j'ai lâché mes relations, j'ai lâché ma propre volonté. J'ai tout lâché pour toi, Seigneur. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il n'y aura pas une rémunération pour moi? Et Jésus dit, Pierre, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que, oui, il y a un prix à payer pour me suivre, mais tu n'as pas encore compris que le prix à gagner, il sera plus grand et qu'il va y avoir un prix à gagner sur la terre et au ciel. Et il va lui expliquer ceci en Marc 10, verset 28. Dernier verset qu'on lit ce matin. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, je vous le dis en vérité, au verset 29, « Il n'est personne, 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 attention, il ne fait pas de favoritisme ici, Jésus dit qu'il n'est personne, qui ayant quitté, quelqu'un qui a quitté quelque chose, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, donc ceux qui ont abandonné quelque chose, qui ont payé un prix, qui ont quitté quelque chose pour Jésus et pour la cause de la bonne nouvelle, peut-être qu'il a quitté sa maison, peut-être qu'il a quitté ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres. Regarde au verset 30 ce que Jésus promet. Ils ne reçoivent au combien ? Au centuple. Et certains sont dans l'erreur doctrinale parce qu'ils prêchent ceci et ils disent, quand tu me donnes une offrande, étant donné que j'ai une onction particulière, lorsque tu mets ton offrande dans mon ministère, à ce moment-là, Dieu va te donner au centuple. Ce n'est pas le contexte pour une offrande. C'est le contexte pour quelqu'un qui a lâché quelque chose pour Jésus. Donc là, c'est mon cœur de berger. Ne vous faites pas embobiner par des offrandes et des escroqueries spirituelles. « Oh, mais ici, tu verras demain, tu auras 100 fois plus dans ton... » Non, non, non. Le centuple dont Jésus prêche, c'est pour ceux qui ont abandonné leur maison, leur frère, leur père, leur mère, qui ont abandonné quelque chose pour le suivre. Il dit « Ne reçoivent au centuple. » Où, Jésus, je vais recevoir au centuple ? Présentement. C'est les Québécois qui aiment bien ça. Présentement, dans ce siècle-ci, sur la terre, si tu lèches quelque chose pour me suivre sur la terre, Jésus dit, Lise, si tu me laisses quelque chose à Jésus, il y aura une récompense dans ce siècle. Présentement, il y a quelque chose. C'est pour ça que je vais prier pour certains qui ont laissé quelque chose pour l'Évangile. Présentement, on va demander les récompenses. Ce n'est pas moi qui le promets, c'est Jésus. Je me mets simplement en accord avec sa parole. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Jésus a aussi promis la persécution, malheureusement. Ce n'est pas facile à entendre, mais... C'est dit aussi dans le Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement ou avec piété seront persécutés. Et regardez, oh, qu'est-ce que j'aime Jésus. Il dit, non seulement tu vas avoir des récompenses sur la terre, pas seulement sur la terre, si tu laisses des relations pour moi, si tu laisses des biens matériels pour moi, si tu laisses ta propre volonté sur moi, non seulement dans ce siècle, présentement, tu auras le centuple des frères, des sœurs, regardez combien vous avez de frères et sœurs autour de vous. Peut-être que vous avez un membre de la famille qui ne vous parle plus parce que vous êtes chrétien, mais regardez le nombre de frères et sœurs que vous avez autour de vous. Et non seulement tu vas avoir un prix sur cette terre à gagner, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Mes amis, je conclue, et si vous devez retenir qu'une seule chose, Jésus n'a jamais dit qu'il n'y a pas de prix à payer pour le suivre. Mais Jésus a aussi promis que le prix à gagner pour le prix qui a été payé sera toujours, toujours, toujours plus grand que ce qui a été laissé pour lui et pour la bonne nouvelle. Ouh. Ha, ha, ha ! Ça, c'est l'évangile de Jésus. Voulez-vous lever? Ou je ne sais pas pourquoi, il y a comme une onction de joie qui vient sur moi. Parce que c'est, pour certains, c'est l'heure de la paye. Amen. C'est l'heure de la paye. Si vous avez laissé quelque chose, c'est l'heure de la paye. D'abord, je vais prier pour les personnes qui sont croyantes et qui ont besoin de calculer le coût. Peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez régler et je vais prier pour ces personnes-là. Et après, je vais prier pour les personnes qui ont laissé quelque chose, qui ont quitté quelque chose pour Jésus et pour la bonne nouvelle. Et je vais m'accorder avec vous pour la rémunération. Père éternel, je prie pour les bien-aimés de Victoire Centre Chrétien. Et je prie tout d'abord pour toutes celles et ceux qui savent qu'ils sont encore croyants. Mais Père, je te demande maintenant par ton esprit qu'ils puissent sonder leur cœur et réaliser qu'il y a la dépense à calculer. Qu'il y a comme cette tour que tu nous as montrée, ou comme ce roi qui partait en guerre contre une armée qui était munie du double d'hommes. Et que vraiment chacun puisse prendre conscience que même si on vit en Occident, même si notre foi, elle ne nous coûte pas comme au Proche-Orient ou en Chine ou ailleurs dans le monde, mais qu'on puisse comprendre que même un chrétien en Occident, Jésus les appelle à les suivre. Et il dit, je ne peux pas vous cacher que tôt ou tard, ça va vous coûter quelque chose. Jésus, il ne nous a pas trompés et il nous a dit exactement la vérité de l'Évangile. Et je prie maintenant que vraiment le Saint-Esprit puisse œuvrer dans les cœurs et que chacun puisse prendre le temps de sonder, de dire où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon amour pour Jésus est plus grand que mes relations les plus chères? Il est plus grand que mon amour propre, plus grand que ma réputation, plus grand que ma propre volonté, plus grand que mes possessions ou pas? Et maintenant, je m'accorde avec ceux qui ont quitté quelque chose. Peut-être qu'ils ont quitté leur maison, peut-être qu'ils ont quitté leur nation, peut-être qu'ils ont quitté un bien-aimé par amour pour Jésus. Mais maintenant, je m'accorde avec vous dans l'esprit et dans la prière. Et je déclare ce que Jésus lui-même a promis. Ma foi ne fait que s'accorder avec ce que Jésus a promis. Je déclare que le prix à payer arrive présentement dans ce siècle, dans le nom de Jésus. Je prie que vraiment cette récompense et cette rémunération commencent à se manifester dans la vie de ceux qui ont quitté quelque chose pour Jésus et pour la bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Et maintenant, si vous pensez que vous avez quitté quelque chose pour le Seigneur, que vous avez quitté quelque chose pour lui et pour la bonne nouvelle, recevez cette parole. Recevez, levez les bras et recevez cette parole que c'est l'heure de la rémunération aussi. Comme Moïse qui avait les yeux fixés sur la rémunération, il y a une rémunération sur la terre. Oh, peut-être que vous allez commencer à couler davantage dans les choses de l'esprit. Alors peut-être que cette rémunération, elle est matérielle, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est relationnelle. Ceux qui ont perdu un bien-aimé pour l'amour de Jésus, peut-être qu'il y a une restauration relationnelle qui arrive. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a une récompense pour ceux qui ont laissé quelque chose ou pas? Amen. Et vraiment, recevez cette parole. Recevez cette parole. Oh, mais c'est venu très fort dans mon cœur cette semaine. Philippe, il y a des gens pour qui les récompenses sont arrivées. Il y a des gens pour qui les rémunérations sont là, elles sont mûres. Oh, merci Père. Oh, recevez ces choses maintenant par l'Esprit de Dieu dans le nom.